Première question, Fabrice Melchiot. Comment on détermine et qui détermine l'âge d'une pièce?
Alors, Amstramgram, la pratique est la suivante. On a une réunion, et c'est vraiment en équipe, collectivement, qu'on s'interroge, et j'insiste sur le terme, qu'on s'interroge en tant qu'adulte, sur l'âge d'accès à déterminer pour chaque spectacle. Évidemment, le point, est extrêmement sensible dans la mesure où nous sommes avant tout un lieu de création. Ça veut dire qu'on s'engage la plupart du temps sur des promesses de spectacle, sur des projets, mais évidemment, on est face à des paysages qui sont des paysages instables parce qu'en construction. Donc la plupart du temps, quand il s'agit de création, on met à l'étude les fragments de texte qui nous sont soumis, quand le texte n'est pas encore écrit. Le texte dans son intégralité quand on a la chance de l'avoir sous la main, mais ça n'est pas toujours le cas, les intentions du metteur en scène, les conversations qu'on a avec les artistes engagés. Dès lors, on essaie de déterminer cet âge en se confrontant nos opinions, et on n'est pas toujours d'accord, mais parce que le point est épineux. Nous sommes des adultes qui avons à déterminer, à considérer d'abord les enfants comme une espèce de communauté, quoi. Les enfants en général. Or, chaque enfant est singulier. C'est pour ça qu'on parle, nous, d'âge indicatif et qu'on invite vraiment, je dirais, chaque parent à reconnaître, voilà, ce qu'il sent lui-même de son propre enfant, et si, au vu de la manière dont le spectacle est présenté, est-ce que le parent en question sent que son enfant, voilà, peut accéder tout simplement au spectacle?
Chez un adulte, Fabrice Melchior, on peut parler de goût et de couleur, alors que chez un enfant, en plus des goûts et des couleurs, il y aurait le développement personnel de chaque enfant, sa maturité, pour déterminer ce qu'il peut entendre ou pas.
Mais est-ce que ça n'est pas réellement la même chose pour des adultes? Bien sûr, goût, couleur et puis développement personnel. En tant que spectateur de théâtre, j'espère, à chaque fois que je m'assois au sein de l'assemblée, que le spectacle auquel je vais, la représentation à laquelle je vais assister, va participer à mon développement personnel. Pas si différemment que celui d'un enfant. Je vais affirmer davantage un point de vue d'auteur. Parce que j'ai été très très souvent confronté dans des débats, des tables rondes, à des enseignants, à des parents qui projetaient très clairement leurs propres limites, leurs inquiétudes, leurs peurs, leurs angoisses, leurs attentes sur les enfants. Quand j'écris, en aucun cas, je suis en mesure de me dire, est-ce que ce sera plutôt pour 7 ans, est-ce que ce sera plutôt pour 8 ans, plutôt pour 10 ans? C'est très très délicat comme question. Alors, je pense qu'on peut parler à des enfants, on peut aborder tous les sujets. Je le dis souvent, mais on ne peut pas imposer le désespoir. Voilà. En tant qu'adulte, on ne peut pas, à travers la forme qu'on construit, les personnages, les situations qu'on présente aux enfants, imposer une vision désespérée du monde. Pour moi, voilà, s'il y a un interdit, il est bien celui-là. Ça n'impose pas que nous soyons contraints au happy end à chaque fois qu'on envisage un spectacle et avec présence des enfants dans l'assemblée. Ce que ça veut dire, c'est que nous reconnaissons pleinement les enfants comme des personnes capable de distinguer des nuances, d'être confronté à des vérités nuancées. Dès lors, et je crois que c'est ce qui fait aussi la grande qualité du répertoire de théâtre contemporain pour l'enfance et la jeunesse, c'est qu'on a des écrivains qui ont enfin compris qu'il s'agissait de considérer les enfants dans toute leur complexité, donc autrement. Ce qui fait qu'on a vraiment là un terrain qui un terrain littéraire qui nous permet d'être très très ambitieux.
Est-ce qu'on peut dire, Fabrice Melchiot, que le théâtre, très schématiquement, se diviserait pour enfants, donc en deux camps, un théâtre qui distrait et protège les enfants et un théâtre qui leur parle comme des êtres humains responsables qui sont capables d'entendre bien des choses qu'ils ont déjà à la maison. Cupidon est malade, par exemple, traite des thématiques du divorce, du couple, des parents. Mon Dieu, les enfants en savent tout un rayon là-dessus quand même.
Oui. Moi, je ne séparerai pas les choses. C'est que je pense qu'on peut, on peut tout à fait, à travers une forme dramatique, entre guillemets, s'attaquer au réel, c'est-à-dire s'attaquer à des vrais sujets de société, les partager avec des enfants, sans du tout tourner le dos à la dimension divertissante du spectacle. Je crois que dans le cas de Cupidon est malade qu'on présente en ce moment à Amstramgram, on est vraiment dans ce cas de figure, c'est-à-dire d'une pièce qui nomme les choses, qui nous renvoie à notre présent, à un présent complexe, parfois douloureux, violent, mais c'est aussi une fête de mariage. Alors, bien sûr, qu'est-ce que c'est qu'une fête de mariage en 2014? Ben, c'est une fête où on a peut-être son ex, ses ex qui sont présents là, et il faut bien faire avec. Donc on est face à des situations qui ont déjà un peu plus de complexité qu'une grande fête de mariage où on s'aimerait pour la première fois. Je crois que ça, dans le spectacle, il y a aussi une très grande dimension farcesque, burlesque, avec des vraies scènes comiques. Et ça, je suis toujours attentif à ça, et c'est ce que j'essaie aussi de partager. Il faut pas que les situations les plus dramatiques des spectacles fassent écran et nous fassent oublier aussi ce qui est vraiment de l'ordre de la comédie dans ce spectacle-là. Et d'un autre point de vue, qui est celui de la langue, chez Shakespeare, on parle de trou du cul, on se traite de connard. Il y a des mots grossiers qui sont là parce qu'il ne s'agit pas de chasser ce que j'appelle les mots voyous des poèmes. Une langue poétique se constitue sur des syncopes, des ruptures, des niveaux de langue différents. Voilà. Dans Cupidon, ah bah oui, à un moment donné, il y a des mots grossiers.
Et les alexandrins, il m'a semblé.
Merci, mais voilà. Mais enfin, c'est vraiment ce qui fait la richesse, la singularité profonde de cette pièce. Et ben voilà, c'est un grand poème avec des mots voyous et avec des moments absolument sublimes. Et dans ces moments sublimes, il y a des mots voyous.
Au théâtre Amstramgram, vous avez parfois, souvent probablement, des jeunes spectateurs, spectatrices qui viennent pour la première fois au théâtre, amenés par leur école ou par leurs parents. Est-ce que ça vous donne dès lors une sorte de responsabilité, une mission particulière, un vertige peut-être? Après tous ces gens-là, on les capte ou pas dans le théâtre, on va peut-être les dégoûter, on va peut-être les garder. Enfin, est-ce que ça change quelque chose d'avoir des gens pour la première fois?
Non, je ne crois pas. C'est que. Non, je crois que le théâtre leur dit immédiatement, tu n'es pas seul. Voilà. Tu es dans une démarche active. Tu es face à des êtres humains qui composent la même assemblée que toi. Là, je parle de ceux qui sont sur le plateau, qui ont à construire ce monde artificiel. Je crois vraiment que les enfants attendent de la complexité. Il faut arrêter de penser qu'il faut les nourrir avec des visions, de bisounours. Notre responsabilité, c'est de les accompagner du mieux possible dans ce qui sera leur existence. Et je dirais qu'il y a un endroit où ne trichons pas. Ne trichons pas. Encore une fois, pas de désespoir. En tant qu'adultes, ne venons pas leur dire ça vaut pas le coup, les enfants. Non, ce qu'on leur dit, c'est non seulement ça vaut le coup, mais il faut se dépêcher. Dépêchez-vous. Une urgence et un appétit de penser, de vivre, d'éprouver. J'insiste sur éprouver. C'est-à-dire contre une. Là aussi, ne pas avoir peur d'une chose. On renvoie toujours à la compréhension rationnelle, analytique des spectacles. Il y a un an de ça, il y a un préalable. C'est-à-dire oser, réussir, construire une attitude qui permet de s'abandonner. d'abord de s'abandonner à des sensations, d'accepter aussi ce qui nous échappe. Moi, en tant qu'adulte, je vais voir des spectacles en espérant très fort que quelque chose m'échappe, que quelque chose fasse problème, fasse question. Ce qui ne fait pas problème, ce qui ne fait pas question, voilà, ce qui est de l'ordre du petit changement de pays, on va dire, du petit dépaysement gentil, de la distraction pure. Bon, c'est bien, c'est comme une petite esquimau sympathique qu'on prend le soir en se baladant. Mais ça n'est pas ce que j'attends, ni en tant qu'auteur, ni en tant que directeur, ni en tant que père.
Je me trompe, Fabrice Melchior, ou je soupçonne un tout petit peu d'exaspération ou de colère dans votre ton? Est-ce que vous êtes en ce moment face à, je ne sais pas moi, plein de remarques d'abonnés? Après tout, les abonnés, c'est souvent les parents qui amènent leurs enfants au théâtre. Donc c'est vers eux ensuite que vous devez expliquer, justifier, raconter, faire œuvre de pédagogie, plutôt que vers les enfants finalement qui, eux, prennent ce qu'on leur donne et sont contents ou moins contents, mais n'achètent pas l'abonnement.
Alors non, il y a pas de colère, il y a vraiment de la passion. Mais parce que je pense que le théâtre enfance et jeunesse vit un temps qui est absolument passionnant. Donc chaque jour pour moi, ce qu'il y a dans ma voix, c'est vraiment la passion. Le théâtre enfance et jeunesse a 100 ans. Dans les années 20, Léon Chancerelle, a l'idée de commencer à pratiquer le théâtre avec et pour les enfants. Où ça? Dans des camps scouts. Donc il faut savoir que la naissance du théâtre enfance et jeunesse, c'est aussi dans des espaces qui sont des espaces qui ont à voir avec la religion et la morale. Pendant des années, on utilise des formes théâtrales, disons pour éduquer les enfants. C'est-à-dire qu'il y a un projet pédagogique masqué dans les œuvres qui sont proposées. Depuis 30 ans, il y a un répertoire de textes accessibles aux enfants qui est absolument passionnant et qui s'est affranchi de l'idée que nous avons à transporter un projet pédagogique derrière nos pièces. Pas du tout. Pas du tout. La pédagogie, c'est un complément ou un préalable à la représentation théâtrale. Mais les poètes ne sont pas au service de la pédagogie. Sinon, on produit de petits poèmes. Je pense que les grands poèmes bousculent, dérangent, perturbent enfants, adolescents et adultes.